On a chanté et j'ai retenu un souffle nouveau. Alors ce matin, vous vous rendez compte, je vais vous conduire dans l'Ancien Testament. Waouh ! L'Ancien Testament. 1 Chronique 22, 28, 29. On lit pas ça tous les jours. Le roi David, il a 70 ans. Un peu comme moi. Moi, j'ai juste quelques ans de plus, mais bon. Et David, c'est la fin de sa vie. David va partir. Il sait qu'il va mourir. C'est pas très vieux, hein, mais c'est fini. Et puis, il y aura son successeur, son fils, Salomon. 20 ans. Tous ceux qui ont 20 ans ce matin lèvent la main. Parfait! Waouh! Bon, allez, vous pouvez aller jusqu'à 30. Hein. Et donc, passation de pouvoir, transition, une nouvelle étape pour le peuple de Dieu, pour la communauté, l'Église, pas encore, mais quand même. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel avenir pour ce peuple d'Israël au moment de ce grand départ de ce grand roi David? Et ce petit jeune dont la Bible nous dit il était jeune et inexpérimenté. Mais ce n'est pas un problème. Écoutez quelques versets comme ça, par-ci, par-là, de 1 Chronique 28, 29 et 30, avant de voir les diapos. Alors, mon fils, que le Seigneur soit avec toi. Agis et que le Seigneur soit avec toi. Qu'il te donne du bon sens, de l'intelligence, du discernement. Que tu mettes en pratique la parole de Dieu, la Bible. Toutes ces prescriptions, attache-toi à mes paroles. Qu'il observe les commandements du Seigneur. Sois courageux et fort. Ne crains rien, ne te laisse effrayer par quoi que ce soit. Mais il y a à côté de toi des princes, le peuple, pour te venir en aide. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes la construction de Dieu. C'est parti. Flash. Il y a dans la vie d'Église, comme dans nos pays, dans le monde, dans la géopolitique, des périodes de transition. Comment va-t-on passer ces périodes de transition? Il y a le roi David, il part. Il y a le jeune roi Salomon, choisi par Dieu. Il a beaucoup de fils, hein. Il a beaucoup de fils, David. Mais il y en a un qui est choisi par Dieu. Pour la suite, c'est Salomon. Il y a dans ces chapitres les princes, les chefs de Juda, c'est normal. Mais il y a la communauté, le peuple, les tribus d'Israël. Et au-dessus de tout, chers amis, il y a le Dieu souverain. Et dans ces chapitres, il y a un mot-clé qui nous retrouve aujourd'hui, construire. Bâtir. Et bien entendu, cette nouvelle étape, c'est bâtir le temple. Changement de réalité pour Dieu, c'est fini la petite tente, coffret sacré. Maintenant, c'est la demeure de Dieu. Dieu va descendre. On comprend, hein? Parce que Salomon a dit, tu ne peux pas habiter dans un temple. Tu es partout. Mais quand même, étape décisive. Une page se tourne, transmission royale de David à Salomon. C'est le testament spirituel de David. Le testament spirituel de David, 28, 22, 28, 29, je te laisse quelques paroles. Et j'agis encore un peu pendant que ça va chez Life Force. Quatre clés essentielles vont nous être données ce matin. Quelqu'un a dit simple, simple. Eh bien, soyons simples ce matin. Quatre clés essentielles pour la suite, pour le nouveau défi de ce jeune sans expérience. Un immense défi devant lui. Alors David lui laisse quatre clés essentielles. On va les répéter à la fin du culte. Hein. Si j'oublie, vous me rappellerez. Mais voici trois paroles de David à la fin de sa vie. Je ne sais pas ce que vous diriez. Par amour ou par intérêt pour la maison de Dieu, je donne. Ouais, c'est simple. Hein. De toute ma force. J'ai préparé pour la maison de Dieu. J'ai préparé pour cette nouvelle étape. Ah, qui se porte volontaire aujourd'hui pour s'engager envers le Seigneur? Je donne. J'ai préparé. Oui, mais qui se porte volontaire aujourd'hui pour s'engager envers le Seigneur? Première clé, l'assistance du Seigneur. Parce que si on ne commence pas par là, mes amis, on peut tout de suite partir. Que le Seigneur soit avec toi. Face aux immenses défis qui attendent Salomon, ce jeune homme de 20 ans, oui, que le Seigneur soit avec toi. La présence du Dieu souverain pour les nouvelles étapes pour David. Que le Seigneur soit avec toi. On le dit peut-être comme ça, hein, un matin. Allez, que le Seigneur soit avec toi. Peut-être facilement. Mais ce n'est pas tout. David dit aussi, connais le Dieu de ton père. Bon, allez, hein. Soyons clairs, des fois, père, c'est un peu lourd. Mais quand même, connais le Dieu de ton père. Quel Dieu ? Salomon peut-il connaître au travers de la vie de son père David ? Mais mes amis, quelle vie ! C'est pas facile, hein ? Vous avez vu combien de chapitres sur la vie de David sont sans problème ? À peine a-t-il gagné contre Goliath que déjà Saül veut le tuer. C'est une poursuite dans les déserts. Connais le Dieu de ton père qui t'a gardé dans le désert, qui t'a protégé tout au long de cette étape difficile. Dans ces moments délicats de ta vie, connais ce Dieu des protections, ce Dieu fidèle. Oui, mais il y a eu Bathsheba. Waouh ! Adultère. Un crime. Mais pour finir, j'ai quand même dit, j'ai péché. Je méritais la mort. Mais connais le Dieu de ton père, le Dieu du pardon, le Dieu de la grâce, le Dieu qui relève, le Dieu qui nous accompagne dans nos chemins. Que le Seigneur soit avec toi, mais surtout que le Seigneur te donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, afin que tu réussisses. 20 ans. On a besoin de quoi à 20 ans? Lisez Proverbes 1 à 9. Moi, je me... Mais Proverbes 1 à 9, il y a toutes les clés. Mon fils, les bons engagements. Ces chapitres demandent la sagesse, le discernement, la clairvoyance pour avancer dans la vie. Une des définitions de la sagesse serait de dire la capacité de prendre les bonnes décisions. Mais ces derniers temps, on était devant une décision importante avec mon épouse, mais on se remuait tout dans les pensées. L'Esprit Saint va nous éclairer. On l'a vu, hein? Mais il va nous guider. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. 20 ans que le Seigneur te donne, que le Seigneur t'accorde cette sagesse dont nous avons besoin en tant qu'Église. Parce que l'apôtre Paul, dans ses lettres, il ne demande pas le bonheur particulièrement, de l'argent pour les églises, il demande, mais soyez remplis de discernement, de clairvoyance, il y a toutes sortes d'idées dans le monde évangélique de l'époque, comme aujourd'hui, soyez revêtus de sagesse et de discernement. Et nous avons les promesses de Jésus, parce qu'on va dans le Nouveau Testament, je ne vous laisserai pas orphelins. Je suis avec vous tous les jours. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon fils, chers frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les défis qui sont là pour cette communauté. Deuxièmement, alors là, on s'y attendait, la place de la parole. À trois reprises dans ces chapitres, David dit à son fils de 20 ans, « Mais s'il te plaît, que la parole de Dieu soit au cœur de ta vie, la Bible. » Qu'est-ce qu'il avait comme Bible, Salomon? Vous savez ce qu'il avait comme Bible, Salomon? Je vous écoute. La Torah, wow, super, la Torah. 5 livres, mes amis. On en a 66. 5 livres. Peut-être quelques chapitres historiques. Si tu veilles à mettre en pratique cette parole, si tu l'observes, si tu t'attaches à la parole, alors tu réussiras. Donne à mon fils d'accueillir ta parole. Donne à mon fils de recevoir la parole. Trois fois. S'attacher, mettre en pratique et observer. Nous n'avons jamais autant de Bible qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais autant de traductions révisées, corrigées, actualisées pour les jeunes. La Bible pour les sportifs, la Bible pour les femmes, la Bible pour les jeunes, la Bible pour les aînés, avec des grands titres comme ça. Nous avons besoin, nous avons la Bible, et on vient avec nos iPhones. Vous voyez, maintenant, moi j'ai un iPhone pour lire la Bible, et on a l'ordinateur, et on a tout pour lire la parole de Dieu. Si tu veilles, si tu t'attaches, peuple de Dieu, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Ah, je vais faire une petite pause. Ouais, allez. Vous savez ce que c'est, ça? Allez.
Un menu déroulant. Un menu déroulant.
Un papyrus. Le psaume 119. Vous voyez, je vais passer. 22 strophes. 8 versets, 22 fois 8 égale 176 versets. Tous les versets, au moins une fois, la parole, la Bible, les commandements, les picoudis, les ordonnances. Mes amis, c'est simplement par l'alphabet hébraïque. 117, 22 strophes, 22 mètres de l'école. Et vous voyez là, ça commence tout par A. Faites un psaume qui commence par A, 8 versets. A, je vais aujourd'hui, A, c'est très bien, etc. Mais c'est merveilleux. Quelle composition! Alors, oh, excusez-moi, il faut 10 minutes pour commencer. Mais c'est une richesse extraordinaire, mes amis. Vous connaissez combien de strophes par cœur, le psaume 119 comment le jeune homme se rendra-t-il pur en observant ta parole? Ah, celui-là, on le connaît. Hein. Celui-là, on le connaît très bien. Bon, voilà. la place de la parole de Dieu. Qui sont mes frères et mes sœurs ? Dira Jésus, mais c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, qui la vivent au quotidien. Et notre ami Jacques, ne soyez pas seulement des auditeurs, c'est très bien, mais des réalisateurs de la parole, la mettre en pratique. Mais écoutez les amis, moi qui suis un peu un vieux briscard de la Bible, cette semaine je lisais dans le livre des Nombres, mais je pourrais vous refaire, si vous êtes à 11h, je pourrais vous refaire un deuxième message. Mais quelle richesse! Mais quelle découverte! On n'est pas rassasié. Oh Seigneur, je te donne 2 minutes, il y a le petit verset du jour. Prenez le temps de vous imprégner de la parole de Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui citait la parole, qui la vivait au quotidien. De la persévérance. Troisième clé, on connaît. Hein. De la persévérance, sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Mais c'est la base, mes amis. Mais c'est quand même un jeune de 20 ans. Il va construire le temple du Seigneur, mais il sera extraordinaire. Le temple de Salomon, mais il a 20 ans. Il y a peut-être des ennemis, il y a peut-être des problèmes matériels. Il faut commander les cèdres, etc. Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié. 3 fois, dans la simplicité de la parole, David laisse ces mots à son fils David. Ça vous rappelle quelque chose, cette parole ? Josué, hein ? Et Josué, il est au-devant de la conquête de la terre promise. Tout est à faire. Ah, mais moi, je suis là, mais... Sois fort et courageux, ne te laisse pas abattre. Ne crains pas, vas-y. Ne sois pas terrifié, il y a des défis, c'est notre vie d'église, ça. Qu'est-ce qui nous attend ? Bon, Chadon, c'est fini, hein ? Mais demain, qu'est-ce qui est devant nous ? Et la direction de l'église, les défis qui nous attendent, notre place dans cette ville, communauté, village, dans cette vallée de témoignages et d'autres défis. Agis, mets-toi à l'œuvre et que le Seigneur soit avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Il nous faut de la persévérance. Il faut continuer la route avec confiance et avec les encouragements de la parole de Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. J'étudie en ce moment le livre des Actes des Apôtres, la première réalité de l'Église toute nouvelle après l'effusion de l'Esprit. Ils persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres. Le premier verbe de l'Église, ils persévéraient. Il continuait. Quatrième clé, un travail d'équipe. Mon cher fils Salomon, t'es seul pour accomplir toutes ces tâches, toutes ces responsabilités que le Seigneur t'a confiées parce qu'il t'a choisi, tu es seul. David ordonna à tous les chefs de venir en aide à Salomon. Ah oui, il y avait des chefs. Ah oui. Ah, il y a des responsables. Hein. Ben, venez aider ce brave David. Ah, mais il y a aussi des prêtres et des lévites. Oh. La prêtrise, les sacrifices, les lévites, qui chaque jour ou tous les jours démontaient la tente, faisaient les services. À tes côtés, il y a tous les volontaires habiles pour toutes sortes de services. Mais c'est l'Église, ça. C'est le Nouveau Testament. C'est Acte 2. C'est à Corinthiens 12 et 14. Ah, vous connaissez bien, hein, Corinthiens 12 et 14. C'est quoi, Corinthiens 12 et 14? Pardon?
Les différents dons.
Exact, les dons de l'Esprit. Alors, mes amis, regardez ce texte. Venir en aide à tes côtés, toutes sortes de services. Tu peux compter pour le travail à faire, pour les cultes chaque dimanche, études bibliques, école du dimanche, réunion de jeunes. Tu peux compter sur des gens pleins de bonne volonté et de compétences parmi les chefs et l'ensemble du peuple. Alors, mes chers amis, c'est encourageant, n'est-ce pas? Parce que, ah mais oui, des gens de bonne volonté. Wow. L'Église, hein, wow, il faut persévérer. Ah, puis il faut encore revenir dimanche prochain. Ah, ou puis à cette assemblée d'Église. Oh, mais de bonne volonté, le cœur bien disposé, comme on a vu dans les chants, ce cœur, c'est-à-dire moi-même, le centre de ma personnalité. Je me donne, et de compétence. Moi, j'aime beaucoup ce mot. La compétence, c'est les dons que Dieu donne à son Église. Mais les compétences, elles ne sont pas mises au service des autres. Ça ne sert à rien, mes amis. On peut parler des dons pendant 10 ans, mais ils doivent être mis au service des autres pour œuvrer et bâtir la maison de Dieu. Et l'ensemble du peuple de Dieu. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait par eux. Ça, c'est le premier voyage missionnaire. Ils retournent à l'église de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils redisent après quelques semaines, comme ici? Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait. Des conversions, des nouvelles églises. Mais ce que Dieu avait fait par leurs mains. Et c'est ce que Dieu va faire avec vous ces prochaines semaines. Ce que Dieu mettait Dieu d'abord au-dessus de tout, avant nos mains, mais par vos mains, par votre bonne volonté, par les compétences qu'il vous aura données. Déjà la conclusion. Construire revient 16 fois dans ces 3 chapitres. Et c'est la clé de la vie d'Église. Dans le mot « construire », dans le verbe « construire » ou dans la construction, dans le Nouveau Testament, en grec, allez, je peux vous dire un mot quand même. Juste un. Hein. Oikos. Vous connaissez, hein, vous avez entendu ça. Oui, plus ou moins. Bâtir la maison de Dieu. L'apôtre Paul va dire, j'ai été envoyé non pour détruire, mais pour construire la maison de Dieu, partout où je suis passé. Le temple sera construit. Le défi de Salomon et du peuple de Dieu, il a été construit, mes amis. Il avait 20 ans, Dieu était là, la parole de Dieu était là. Et David et Salomon et le peuple de Dieu ont réalisé ce beau projet de Dieu. Nous allons réaliser des projets de Dieu et construire cette maison encore. Mais je dois vous dire ce matin, le temple de Salomon, il a été détruit. Et le temple de Néhémie-Esdras, il a été détruit. Et le temple de Jérusalem, 40 ans, détruit. Mais Jésus est le temple. Et nous sommes le temple de Dieu. Attention, mes amis. Hein. Ah, on a une salle, on est assis, c'est très bien. Là, on dit souvent la maison de Dieu. Mais dehors, c'est aussi la maison de Dieu. Hein. Quand vous êtes dans les pâturages de Recouvillier, il n'y a pas de souci. Dieu est là aussi. Hein, il ne revient pas seulement le dimanche matin, mais c'est très bien. Mais mes amis, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme je dis toujours, nous sommes des temples ambulants. chez Aldi, dans vos maisons, partout, le Saint-Esprit est dans nos cœurs et dans nos vies. Le Saint-Esprit nous éclaire, nous guide, nous console, nous encourage, nous aide à prendre des bonnes décisions. Nous sommes le temple de Dieu. Et cette communauté ensemble est le temple de Dieu pour le servir. Jésus a dit, Matthieu 16, « Je construirai mon Église. » Ça fait 2000 ans qu'il l'a construit. Pas toujours facile. Il y a des échecs. Mais ce matin, au Japon, ils se sont levés avant nous pour célébrer le Seigneur. Il bâtit son Église. Et vous savez où il l'a bâti aussi? En Haïti. Moi, je lisais des nouvelles de missionnaires suisses. Ils n'ont plus pu rester à Haïti. Ils ont dû partir dans une voiture blindée pour aller en Dominique. Mais mes amis, c'est l'horreur en Haïti. Mais il y a une église. Il y a des chrétiens. Et le Seigneur bâtit son église. Et Paul a dit, j'ai planté, un autre a arrosé et Dieu a fait croître. Ici, dans cette église, il y a des planteurs. Et puis il y en a qui arrosent. On aime bien arroser. Mais c'est Dieu qui fait croître. Tout ce que vous ferez dans votre travail d'équipe, vous pourrez arroser, planter au fil des semaines. Mais c'est Dieu qui va faire pousser, faire croître. Et voilà que Paul nous dit, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Dieu bâtit son Église ici, dans notre pays et partout dans le monde, dans l'attente de son retour. Et j'aime beaucoup ce verset. Vous êtes non seulement un temple vivant, mais des pierres vivantes. Construisez-vous pour former une maison spirituelle. Bâtissez, construire une maison spirituelle pour la gloire de Dieu. Les dons accordés pour quel but? Pour que cela contribue à la construction de l'Église. Tout don parfait, tout don, c'est pour construire la communauté, l'édifier. Et je crois que j'ai terminé là. Mais non, j'ai encore deux versets. Mais c'est drôle, je vais vous terminer par deux versets que j'ai lus cette semaine. Je les ai rajoutés, hein. Au départ, ils n'y étaient pas. J'ai encore deux choses. Ce peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Entre parenthèses, construire la maison de Dieu, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je ne fais pas de... Le roi David, en une grande... Tout le monde était dans la joie. Il y a l'élan. Il y a la bonne volonté. Il y a les services. On est à côté les uns des autres et on se réjouit de ce qu'on donne. On se réjouit. Je redis cette question, mes frères et sœurs. Qui se porte volontaire aujourd'hui pour s'engager envers le Seigneur? Je ne vous demande pas de vous lever. Non. Alors, conclusion. Voici Moïse, deux versets que je vous laisse. Deux versets. Moïse dit à son beau-père, mais viens avec nous. Nous te ferons participer au bienfait que le Seigneur a accordé à son peuple. Mais mes amis, ils sont dans le désert. Oh, tu verras, il va faire chaud et froid la nuit. Et on n'a pas toujours à manger. On a soif. On veut de la viande. Non. Nous te ferons voir les bienfaits que le Seigneur va accorder à son peuple. On va garder ce verset pour cette année, d'accord? Mais je vous dis, mes amis, mais viens avec nous. Pas avec moi, mais les uns et les autres. Quelle belle parole. Et regardez ce mot, les bienfaits, alors qu'ils sont dans le désert. Et nous, on n'est pas dans le désert. J'ai entendu une prière où le frère parlait de notre pays. Non, mais... Il est même d'accord. Conclusion. Et ici... C'est terminé après ça, je vous promets, c'est terminé. Dans le chapitre 11, Moïse est au fond, du fond, du fond, il est en burn-out. Il y a des gens qui réclament, il y a des gens qui pleurent. On veut de la viande. Et Dieu dit, et Moïse dit, écoute Seigneur, maintenant j'en ai assez, tue-moi. Vous vous rendez compte? C'est trop pour moi, je vais arrêter. Et puis je dois nourrir 600 000 personnes. Elles vont venir où cette viande? Elle va venir de où? Et Dieu lui dit, et ma puissance n'est-elle pas suffisante? Alors il y a déjà les bienfaits, et je termine par cette parole. Eh les amis, ces prochaines semaines, et ma puissance n'est-elle pas suffisante pour faire face aux défis qui sont les nôtres ici, comme nous à Moutier, ou ailleurs, en Haïti, au Mali, au Burkina, en Éthiopie, en Érythrée. Oh, hier, j'étais à Mora, et il y avait un mariage éthiopien ou érythréen. Mais quel faste! Oui, mais il y a des chrétiens qui sont dans des conteneurs. Et ma puissance, est-ce qu'elle ne sera pas suffisante pour nous ces prochaines semaines? Alors, bon courage, hein, les amis.